Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Depuis hier, absolument toutes les télés de France ont rediffusé François Fillon, 2007. Je suis à la tête d'un État en faillite, disait à l'époque le Premier ministre. Alors est-ce que c'est justifié de ressortir ces archives aujourd'hui ? Le titre choc du quotidien L'Opinion, rigueur ou chaos ? Le piège budgétaire se referme et de manière assez assumée revient cette question, faudra-t-il ou pas monter les impôts ? Éric Ciotti fait de la politique mais il a quand même comparé la France à la Grèce. Et puis j'ai ouvert ce matin le livre de Bruno Le Maire, La Voix française, et en page 68, il propose de basculer 60 milliards d'euros de cotisations sociales aujourd'hui prélevées sur le travail vers la TVA ou vers la CSG. Avec l'idée notamment de cibler les retraités. Décidément, ils auront été cités tous les jours cette semaine, les retraités. Le Sénat a rejeté le CETA. Intuitivement, on sait bien que l'opinion publique est rétive au libre-échange. Alors je poserai la question, pourquoi la concurrence a si mauvaise presse ? Et puis c'est une étude que j'attends aujourd'hui de la part de la Banque de France, une étude qui se veut rassurante sur les pertes de gains de productivité. La Banque de France, c'est un article des Échos qui révèle cette étude, s'attend à ce que, en 3 ans, un tiers de la productivité perdue soit rattrapée. Bonjour Dorothée Rouzet.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes chef économiste de la Direction Générale du Trésor. Patrick Artus, bonjour.
Bonjour Dégueulasse.
Conseiller économique de Natixis, vous avez coécrit de l'économie d'abondance et l'économie de rareté chez Odile Jacob. Guillaume Poitrinal, bienvenue.
Bonjour.
Fondateur de WO2, promoteur immobilier bas carbone, et vous avez publié, pour en finir avec l'apocalypse, une écologie de l'action, publié chez Stock. Est-ce que le piège budgétaire se referme, Patrick Artus ? On a l'impression qu'en fait, il ne se passera jamais rien. Et qu'on peut continuer éternellement à vivre comme nous vivons. Parce que regardez, 2007, François Fillon, nous sommes en faillite. Bon, le mot faillite ne correspond pas à ce qu'il faut dire pour un État, il faut dire banqueroute. On est en 2024 et tout va bien.
Bon, alors, je vais pousser le bouchon un peu loin et je vais défendre la thèse provocante que la meilleure politique, c'est de ne pas essayer de réduire le déficit public.
La meilleure politique est de ne pas essayer de réduire le déficit.
Et mes camarades diront l'inverse probablement. Mais l'argument, il y a trois arguments. D'abord, il n'y a aucun signe que la dette publique de la France soit moins demandée sur les marchés financiers. Quand on regarde les adjudications du Trésor, toutes les adjudications sont 3 fois souscrites. Le spread de taux avec l'Allemagne, il y a 44 points de base, il a absolument pas frémi, etc. Deuxièmement, si on considère l'ensemble France-Allemagne, et c'est justifié du point de vue d'un investisseur. Un investisseur, je pense que la dette française est très très substituable à la dette allemande. On peut ajouter les deux déficits publics et les deux dettes publiques. Quand vous ajoutez le déficit public de la France et le déficit public de l'Allemagne, vous allez trouver un peu en dessous de 3% du PIB cette année.
Donc c'est quand même super audacieux.
Non,
c'est super audacieux.
C'est un argument de substituabilité très fort entre les deux dettes.
C'est une fusion obligatoire.
Et ça correspond à une réalité de marché, parce que les gens ne pouvant plus acheter de dette allemande, puisqu'il n'y en a plus,
ils vont chercher de la française.
Donc ces deux dettes sont parfaitement substituables et on peut ajouter toutes les caractéristiques budgétaires des deux pays. Et troisièmement, si on commence à réduire le déficit public, on va réduire plutôt les dépenses d'avenir que les dépenses utiles. Et les dépenses d'avenir, c'est la croissance future, donc on aggrave la situation pour l'avenir. Donc je pense qu'il y a une piste qui est de s'engager à augmenter la part des dépenses d'avenir dans le total des dépenses, mais à ne pas faire baisser le total des dépenses.
Waouh ! Bon. À l'argumentaire, l'argumentaire me laisse wouche.
La question,
le deuxième point sur l'ensemble France-Allemagne,
La question, elle est toute
Guillaume
simple.
Guillaume Poitrinal, et puis question, Dorothée, vous prenez la parole.
Non, mais Dorothée, elle va faire la synthèse.
Oui, elle va faire la synthèse.
La question, elle est toute simple. C'est est-ce que la France peut être durablement le numéro un mondial de la dépense publique, 59,5% du PIB.
58.
Ça dépend des années, là. Le numéro un mondial des prélèvements obligatoires, puisque je rappelle que quand même, là, on est quand même passé devant la Norvège et le Danemark. Donc, avec en 2023, plus de 46%. Le numéro 1 de l'OCDE pour le déficit public. Déficit qui quand même dépasse 160 milliards. Il faut que les auditeurs comprennent ce que 160 milliards sur le budget de l'État. Là, c'est sur le budget de l'État.
Parce qu'en pourcentage du PIB, il y a les États-Unis qui sont largement en Europe.
Je suis d'accord. Mais en tout cas, sur 160 milliards.
C'est un cas spécial des
États-Unis. Oui, mais les États-Unis.
C'est pas comme les autres, les États-Unis.
Les États-Unis, il y a 27% de prélèvements obligatoires. Donc, arrêtons de se comparer aux États-Unis en disant les États-Unis, finalement, ils vivent à crédit. Ils vivent à crédit, oui. Mais il n'y a pas d'impôt. Donc, c'est pas très grave, puisqu'en fait, le crédit, c'est jamais qu'un impôt différé, qui un jour sera bien payé, de toute façon. Ces 160 milliards de déficit public, ou 173 milliards, puisque maintenant, là, c'est le nouveau chiffre.
Ouais, à peu près.
Les Français ne se rendent pas compte de ce que c'est, parce qu'en fait, par milliard, on ne se rend pas compte. Il faut le rapporter.
C'est un an de TVA.
Il faut le rapporter au nombre de foyers français. Il y a 30 millions de foyers français. Ça représente, par foyer français, 5 000 euros. 5 000 euros, c'est-à-dire, en fait, 2 mois de pouvoir d'achat supplémentaires dans la poche des Français qui vont principalement à de la dépense sociale et qui ne sont pas gagnés par les Français, qui sont empruntés sur les générations suivantes. Est-ce que ce modèle est stable? Est-ce qu'il est possible de vivre comme ça éternellement? Moi, je prétends que non, je prétends que ça coûte cher, et je prétends qu'en fait, tout simplement, et c'est ce que peut-être Patrick Artus manque, peut-être, enfin, la thèse finale, la sortie du système, c'est les marchés. Les marchés, ils vous préviennent pas avant de vous dégrader. Ils vous dégradent et un jour, ils veulent plus de votre dette. Donc, et ça prévient pas. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, l'OAT, moi, j'ai été patron d'entreprise, j'ai émis des obligations par milliards d'euros. Et je peux vous dire que le jour où les marchés se retournent, ça prévient pas. Et ce jour-là, eh bien, tout simplement, vous êtes en banqueroute.
C'est vrai qu'en 2011, ça s'est retourné sur l'Italie assez vite. On a vu le taux italien s'envoler en l'espace d'une semaine. Il a fallu écarter du pouvoir Silvio Berlusconi, qui était rattrapé par des scandales politiques.
Donc, est-ce qu'on peut augmenter les impôts? Réponse non. On est numéro champion
du
monde.
Alors, on va revenir sur les impôts.
Il va falloir s'occuper de la dépense.
La synthèse de Dorothée.
Je vais revenir au point de départ. Effectivement, je vais avoir 2 points d'accord avec Patrick Artus et un gros point de désaccord. Dans les points d'accord, c'est que je pense que les termes banqueroute, faillite, chaos, enfin, il ne faut pas surdramatiser. Effectivement, la dette française n'a pas de mal à trouver preneur. Elle est toujours très prisé. Le spread n'a pas bougé par rapport à l'Allemagne, donc on n'est pas non plus dans une situation où on est au bord de la difficulté de financement de très loin. L'autre point d'accord, c'est il faut faire attention à préserver les dépenses, les investissements d'avenir.
Donc c'est le point numéro 1, Patrick, et le point numéro 2.
Le point numéro 2, l'union fiscale franco-allemande, on en est encore très loin, et je pense que nos partenaires allemands n'achèteraient pas beaucoup ce raisonnement de consolidons nos déficits et puis en moyenne on est pas mal.
Vous imaginez,
mais les investisseurs internationaux, les banques centrales d'Asie sont privées de papier allemand et elles se reportent vers le papier français, donc la réalité de marché, c'est bien qu'on peut substituer de la dette française à la dette allemande
aujourd'hui.
Oui, jusqu'à un certain point, aujourd'hui. Et on a aussi, par ailleurs, je dirais, des choses qu'on a envie de financer au niveau national, des engagements européens qui demandent d'avoir de la place pour nos priorités. Donc, dire il ne faut pas réduire la dépense au total, non, je pense qu'il faut réduire la dépense publique. Elle a beaucoup augmenté du fait des crises successives, et c'était justifié pendant le Covid, c'était justifié pendant la crise énergétique. On en sort, il y a un moment où, oui, on arrive au point où il faut faire des choix sur la dépense parce qu'il faudra financer plus de transition écologique, probablement plus de défense.
Et
le vieillissement, ça demande de faire des choix par ailleurs. La question, c'est pas est-ce qu'il faut réduire la dépense publique. Pour moi, c'est pas non plus est-ce qu'il faut augmenter les impôts, parce qu'effectivement, on est quand même déjà assez haut. C'est plus à quel rythme et comment.
Quel est le bon rythme pour justement...
Ne pas couper dans les dépenses d'avenir qui obéreraient notre croissance future, ne pas couper non plus trop dans les dépenses qui sont utiles pour la croissance aujourd'hui, parce qu'on ne veut pas se retrouver non plus dans une spirale où on coupe tellement que finalement on n'a plus de croissance, et en termes de dette publique qui est rapportée au PIB, si on a moins de PIB, ça ne nous aide pas. Donc trouver ce bon équilibre et le bon rythme, c'est ça la vraie question. Le fait qu'il faille réduire les dépenses, je pense que c'est...
Quel rythme et où, effectivement, cette question, on la pose souvent, la réponse, elle ne crève pas les yeux. Parce qu'on a vu le rythme du décret 10 milliards, on a vu où est-ce qu'on est allé chercher les sous, un petit peu partout, en urgence. Est-ce que c'est viable, demandait à l'instant Guillaume Poitrinal, Patrick Artus. Vous dites, c'est pas le moment, la dette est demandée, il faut pas taper dans les dépenses d'avenir, mais est-ce que ça peut tenir
Mais, ou pas. Le problème, c'est qu'on a...
Là où Guillaume a raison, c'est que les marchés ne prennent
pas. Non, mais évidemment, il y a une limite. Mais je pense que ça serait extrêmement dangereux de faire une politique de contraction de la demande de publique totale. On va avoir à peu près 1% de croissance d'ici 2027 chaque année. Hein. Si on veut rester sur l'objectif budgétaire qui est 2,7 points de PIB à l'horizon de 2027, on va perdre un point de croissance chaque année par la baisse des dépenses publiques. Donc on va se retrouver à zéro de croissance du PIB chaque année entre maintenant et 2027.
Donc si on veut baisser nos déficits, tuer le peu de croissance qui nous reste.
Je pense qu'il est mieux d'amorcer une trajectoire, puisqu'on a du temps, hein, les marchés ne nous en veulent pas, on n'a pas du tout de situation de crise, il vaut mieux amorcer une trajectoire de changement de la structure de la dette, de la demande. Hein, et donc, progressivement, augmenter les dépenses publiques qui aident à la réindustrialisation, de transition énergétique, d'éducation, de recherche et diminuer un certain nombre de dépenses publiques.
Ah, lesquelles ?
Mais il n'y a pas de dépenses publiques qui l'idée qu'il y a des baisses de dépenses publiques serait neutre vis-à-vis de la croissance.
C'est fausse.
Mais non, il y a un multiplicateur budgétaire en gros.
Ça n'est jamais neutre, mais le multiplicateur n'est pas le même pour toutes les dépenses.
Oui, mais
ça permet aussi
de. C'est très compliqué. Ça dépend du cycle conjoncturel. Ça dépend de plein de choses.
Et oui, on peut aussi dire du coup, puisqu'on ne sait rien, on ne fait rien. Mais je pense qu'on a quand même pas mal d'études sur les différents multiplicateur des différentes dépenses, et on peut essayer de cibler de manière avoir le moins d'impact sur la croissance possible.
Là où vous vous retrouvez avec Dorothée, c'est qu'effectivement, il faut déterminer un rythme, un calendrier, on n'est pas obligé de faire ça. Là, c'est un peu l'urgence, les 10 milliards, et puis on passe de 12 à 20 pour 2025. Un sentiment d'urgence. Il faudra les identifier, ces dépenses qu'on peut se permettre de baisser.
Et puis les marchés financiers accepteraient complètement une trajectoire sur quelques années qui augmenterait la part des dépenses d'avenir, soutiendrait la croissance potentielle et restaurerait la crédibilité, la soutenabilité de la dette en 3 ans, 5 ans, etc.
C'est un peu le principe.
On retourne l'année prochaine à une dette soutenable. Donc je pense qu'il faut prendre du temps et acter que c'est notre structure de dépenses qui n'est pas bonne.
La structure de dépenses n'est pas bonne, il va falloir faire des choix alors. Et aujourd'hui.
Que la dépense sociale soutienne l'économie, oui, à court terme. Mais trop de dépenses publiques ne soutient pas l'économie. Les pays à forte croissance sont les pays, quand même, malgré tout, qui, autour du monde, ont réussi à contenir leurs dépenses publiques et ont réussi à contenir leurs impôts. Nous, c'est open bar. Donc, on est les numéros 1 mondiaux. Hein. On est les champions du monde de la dépense publique.
Vous avez un phénomène récessif. Si vous coupez 20 milliards dans votre budget de l'année en cours, vous avez un phénomène récessif.
Vous savez, de temps en temps, moi, je viens du monde des entreprises, je ne suis pas un grand économiste, mais de temps en temps, quand on a une entreprise en difficulté, quand on a une entreprise sur laquelle on veut faire passer un cap, il faut accepter de mettre les comptes dans le rouge. Pourquoi ? Parce qu'il faut travailler dans le dur. Et c'est probablement l'erreur du président Macron avec ses mandats, je suis très ouvert avec lui, c'est que finalement, en fait, oui, il y a eu quelques réformes de fiscalité qui étaient probablement assez intelligentes.
C'est 2017,
sur le truc, il y a eu des réformes sur le droit du travail, etc. Mais l'ossature de notre dépense publique, c'est-à-dire les ARS avec autant de monde, c'est-à-dire le personnel hospitalier administratif, c'est-à-dire le nombre de profs par élève, c'est-à-dire le nombre de collectivités locales, le temps perdu, nous, promoteurs immobiliers, à aller voir monsieur le maire, monsieur le président de la communauté de communes, évidemment.
Vous le racontez à chaque fois,
l'un et l'autre ne s'occupe pas du PLU, ni des mêmes choses. Le temps perdu avec l'autorité environnementale, le temps perdu avec la multiplication des autorités, le temps de la complexité administrative qui embourbe tous les entrepreneurs du pays, qu'il s'agisse d'un monsieur qui veut ouvrir une usine demain, ou même des mines d'Imerys, puisqu'on va parler tout à l'heure des mines d'Imerys.
Dans l'Allier, oui.
Tout ça, ça a de l'argent. Tout ça, ça coûte. Et un des sujets d'ailleurs des économistes, je l'ai dit dans mon premier bouquin il y a 10 ans, c'est que les économistes s'occupent du numérateur, de la production, ils s'occupent jamais du temps. Le dénominateur ne préoccupe pas les économistes. Or, le PIB est un rapport de production au temps. Donc tout ce qui est perdu comme temps, que vous ne connaissez pas et qui est quasiment pas mesurable, tout ce qui est perdu comme temps, autorisation de mise sur marché d'un nouveau pansement par Urgot, non, c'est impossible à chiffrer. Parce que derrière,
on a chiffré le coût annuel de la complexité à 60 milliards
quand
d'euros.
Quand on met 20 ans à faire une tour à côté dans le truc, alors que dans beaucoup de pays, on met 5 ans, évidemment, ça a un impact sur le PIB. Qu'est-ce que vous pouvez le savoir? Qu'est-ce que vous pouvez le mesurer? Notre-Dame-des-Landes, tout cet argent qui a été inutilisé, on aurait pu le dire d'ailleurs à nos amis de Vinci, au bout de 2 ans, il n'y aura pas d'aéroport. Non, on les a fait courir, on a même dégagé des terrains, on a fait des trucs, ça a coûté une fortune pour rien. Aujourd'hui, d'ailleurs, Vinci demande plus d'un milliard à l'État.
Patrick, les dépenses, il faut faire des choix. Alors, où est-ce qu'on va pouvoir faire des économies?
Alors, quand on
Parce que rien n'est indolore. Dès que vous allez faire une économie, là, on commence à lui dire, on va peut-être moins rembourser les affections longue durée. Ben oui, mais on sait que quelqu'un, ça va coûter à quelqu'un. Vous voulez vous former, vous aurez 100 euros à payer pour votre compte. Voilà des économies. Mais chaque économie correspond à une poche qui sera soit prélevée, soit moins remplie.
Oui, mais voilà. Il va falloir assumer qu'on dépense... trop d'argent pour le transport médical, on dépense trop d'argent pour l'indemnisation du chômage. D'ailleurs, on dépense pas assez d'argent pour le retour à l'emploi des chômeurs. Hein, donc, c'est un cas de mauvaise allocation de la dépense. Qu'on dépense trop d'argent dans la bureaucratie, dans l'éducation nationale. Donc, il y a beaucoup de non-enseignants, de gens qui sont pas en situation d'enseignement, dans la santé, dans l'éducation nationale, et il faut changer tout ça. Donc, il y a des pistes d'économie, et qui probablement peuvent pas se réaliser très rapidement. Le danger des économies très rapides, c'est qu'à nouveau, les économies qui ont été faites en 2024, elles vont affecter les ministères qui devraient pas subir d'économies. C'est l'éducation, c'est la recherche, c'est l'environnement. Donc quand on est dans l'urgence à la recherche d'économies, effectivement,
c'est les bêtises.
On ne peut pas réduire la bureaucratie de l'éducation nationale dans l'année. Quoi, je veux dire, c'est un programme de moyen terme. Donc je pense qu'il faut prendre son temps et avoir un programme multiannuel de transfert de la dépense vers des dépenses plus productives.
Monter les impôts. Dorothée, allez-y, après monter les impôts, et puis ensuite on fera la page 68 du livre de Le Maire.
Avant monter les impôts, moi je pense que, enfin, oui, il faut prendre le temps de faire des choix, mais c'est un peu, enfin, c'est l'objectif de regarder des économies structurelles. Effectivement, ça se fait pas en 2 mois. Ouais. Après, c'est un processus qui est enclenché, donc on cite les revues de dépenses, il y a les dispositifs médicaux, il y a un certain nombre de champs. Ça prend un peu de temps, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas non plus trouver des choses qui commencent dès le budget 2025. Enfin, il ne faut pas non plus se dire tout doit prendre 5 à 10 ans et donc ne faisons rien. Et je pense d'ailleurs, pour faire le lien avec le sujet suivant, si on commence à dire surtout attendons parce que c'est très compliqué avant de commencer à baisser les dépenses, la musique de on nous prépare des hausses d'impôts va augmenter, et ça non plus, c'est pas très bon pour l'économie en fait. Hein, l'incertitude de se dire est-ce que les impôts vont augmenter en termes d'investissement, etc. En général, ça ne marche pas très bien. Donc il y a quand même des raisons aussi de se dire regardons la dépense assez vite pour aussi rassurer les gens sur le fait que les impôts vont pas trop augmenter. Ensuite, sur quel domaine de dépense, enfin, quand vous dites 10 milliards, on a fait tout ce qu'on a pu, faut voir que ces 10 milliards d'abord ils ne sont que sur l'État.
Dépense d'État, c'est par décret et dépense d'État.
La dépense publique, c'est en gros 30% l'État, 20% les collectivités locales, 50% la sécurité sociale. Donc sur les 70% restants, pour l'instant, pour cette année, ça n'a pas vraiment commencé. Il y a sans doute quand même des choses à faire, à la fois à court terme et de manière plus structurelle en cherchant l'efficacité. Et je pense se dire aussi, il y a tout un ensemble de ministères, parce qu'ils correspondent à nos priorités, qui doivent être complètement exonérés. Je ne suis pas complètement sûre, enfin c'était aussi, donc oui, dans le décret à 10 milliards, il y a des ministères, on peut dire pourquoi la transition écologique, pourquoi l'éducation, toutes les dépenses de l'éducation ne sont pas les salaires des profs. Hein. Il y a aussi d'autres dépenses de fonctionnement, il y a aussi, donc je pense que...
Oui, il faut regarder dans le détail les dépenses dont on parle, parce que si on donne que l'intitulé, on a une émotion immédiate. Alors que dans le détail, souvent d'ailleurs, c'était des crédits de réserve qui étaient là pour...
Dernier point en termes de un peu critères pour essayer de se dire quelles dépenses regarder. Donc vous dites oui, enfin quelque part, toute dépense, c'est un paiement qui va à quelqu'un. Oui. Ensuite, en tant qu'économiste, on aime bien réfléchir aux incitations. Donc il y a aussi des domaines, oui c'est le cas dans certains domaines de la santé, de la formation, etc., où parce que le reste à charge en fait est très faible, quelque part on consomme trop ou on consomme des choses dont on n'a pas vraiment besoin, ou ça pourrait être plus efficace, mais au fond, si je paye rien et que c'est la sécurité sociale qui paye, pourquoi m'embêter?
Ouais,
donc ça, cette démarche un peu de responsabilisation et d'incitation, on peut aussi la regarder dans un certain nombre de domaines et ça aide aussi à prioriser ou aller chercher.
Oui, il y a des trucs à faire.
C'est l'idée de la fameuse gratuité universelle que dénonçait Bruno Le Maire à l'occasion de son entretien au JDD. C'est l'idée qui a poussé à créer un forfait de 100 euros pour l'utilisation du compte personnel de formation.
Il y a des impôts qui sont complètement à l'envers de ce qui devrait être. Je prends l'impôt sur les plus-values immobilières. Le truc délirant qui vous dit, pour faire très simple, si vous voulez payer zéro d'impôt sur les plus-values immobilières, il faut détenir votre bien pendant plus de 30 ans. Oui, d'abord, alors, immense cadeau aux seniors qui, eux, sont assis chez eux dans le truc, comme ça, au moins, le jour où ils prennent leur retraite.
Ça fait des années qu'on dit qu'il faut inverser la logique.
C'est évident. Et immense pénalité pour les jeunes qui achètent un deux pièces, qui ont besoin d'un trois pièces, qui ont besoin de vendre, etc. et qui, au bout de 3-4 ans, alors eux, s'ils font une plus-value, ils sont juste martyrs fiscaux. Donc, parce qu'ils sont à l'intérieur de la tranche des 5 ans où ça n'a pas baissé d'un seul centime. Donc, évidemment, voilà un impôt dans lequel, si on avait une assiette large et un taux bas, enfin un taux modeste, tout le monde accepterait de payer cet impôt, et voilà de l'argent qui rentrerait, et en plus, on ferait des droits de mutation, parce qu'on aurait beaucoup plus de fluidité. Aujourd'hui, le nombre de gens qui sont assis sur leur truc en regardant, bah non, il reste 28 ans, 29 ans, je veux descendre à zéro, à 30 ans, on reste encore un peu, et l'année prochaine, c'est bon, jackpot, on est à 0% sur les plus-values. Voilà un impôt totalement idiot. Donc là, moi je propose, voyez, pour une fois, je propose une taxation de l'immobilier, vous vous rendez compte, je propose d'en finir avec ce 0% de taxation des plus-values immobilières pour votre résidence secondaire. Je rappelle que c'est exonéré pour la résidence principale, pour ceux qui nous écoutent. Mais pour la résidence secondaire, c'est débile.
Marque une pause. Dans un instant, je vous demanderai quand même, Patrick Artus, ce que vous pensez des impôts, parce que il n'y a pas que des sados fiscalistes de l'Assemblée nationale qui ont des idées farfelues de fiscalité. Il y a quand même pas mal d'observateurs qui considèrent qu'on n'échappera pas à la case hausse d'impôts. Alors après, il y a des hausses d'impôts évidentes, et puis après, il y a aussi des hausses d'impôts qui consistent à tailler des niches fiscales. C'est à peu près le même effet. Et puis, je vous ferai réagir à la proposition. Enfin, la proposition, elle n'est pas révolutionnaire, mais l'idée de basculer des cotisations payées par les actifs vers des impôts à assiette large et à taux bas. C'est la TVA ou la CSG. On en a souvent parlé, mais en tout cas, c'est à nouveau d'actualité dans le livre de Bruno Le Maire. On fera un peu de CETA et puis la note de la Banque de France. A tout de suite.
Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Dorothée Rouzet, chef économiste de la Direction Générale du Trésor. Patrick Artus, conseiller économique de Natixis, qui a coécrit de l'économie d'abondance à l'économie de rareté chez Odile Jacob. Guillaume Poitrinal, fondateur de WO2, promoteur immobilier bas carbone, qui est l'auteur de Pour en finir avec l'apocalypse, une écologie de l'action chez Stock. Il y a un auditeur qui dit que quand on déménage de résidence principale à résidence principale...
Oui, de résidence principale à résidence principale, il a raison.
Bon, il a raison.
Il a raison, mais par contre, sur toutes les résidences secondaires, ça n'a pas de sens d'être à zéro. Et c'est pas l'inflation, une fois encore, qui pose sujet.
Il y a cet auditeur...
En fait, on a créé un paradis fiscal un petit peu artificiel en disant aux gens, asseyez-vous sur votre immobilier, oubliez-les et détenez-les pendant 30 ans.
Il y a un auditeur qui dit qu'il faut pas prendre son temps. Il faut arracher le sparadrap d'un coup. Ça fait mal, mais pas longtemps. C'est fait très mal alors.
Bah oui.
La Grèce,
le Portugal.
J'ai regardé quand même ce que les Portugais ont fait, ce que les Grecs ont fait précisément en termes de rigueur, c'est juste.
La baisse.
Non, mais vous imaginez, on a baissé le salaire minimum, on a baissé les pensions de retraite.
Et la baisse des dépenses d'éducation, la baisse des dépenses de santé, la baisse massive des retraites.
Salaire des fonctionnaires, ils avaient un 13e mois, je crois.
Et ça marche, hein.
Ça marche, oui, il y a un choc de compétitivité qui paye au bout de 10-12 ans, quoi. Est-ce qu'on est prêt à faire ça, avoir une baisse de notre niveau de vie de 20% comme les Grecs?
Ils n'ont pas retrouvé leur niveau de PIB.
Ils ont presque retrouvé leur niveau de PIB, mais 15 ans après, quoi.
Alors, est-ce qu'il faudra monter les impôts, d'après vous?
Bon, mais
Patrick me regarde désespéré en ce moment, mais...
Mais le problème, c'est une question générale. Je répète toujours sur ce plateau la même chose. La chose qu'il faut, il faut avoir à l'esprit, c'est que si nous avions le taux d'emploi de l'Allemagne, on aurait un excédent budgétaire. Donc on ne se poserait absolument pas de questions.
Je m'étais demandé combien de temps vous alliez me parler
d'économie. Il faut absolument, si on augmente les impôts, il ne faut absolument pas augmenter les impôts qui auraient un effet négatif sur le taux d'emploi. Donc effectivement, il ne faut pas augmenter les cotisations sociales, il ne faut pas augmenter les impôts de production, il faut trouver des impôts qui n'ont pas d'effet sur le taux d'emploi. Alors c'est plus difficile, on n'a pas d'expérience, par exemple, une contribution exceptionnelle sur les patrimoines, on ne sait pas ce que ça fait sur le taux d'emploi, parce qu'on ne l'a jamais fait, par exemple. L'impôt sur les sociétés, c'est probablement pas très bon pour le taux d'emploi, ça pousse à délocaliser des créations d'emploi. Enfin, je dirais, il faut avoir ce guide de la politique économique que notre problème, c'est essentiellement le taux d'emploi.
Alors, c'est la page 68 du livre de Bruno Le Maire.
Oui, mais...
On baisse les cotisations. Baisser les cotisations, c'est bon pour le taux d'emploi. Ben... 60 milliards, il dit 60 milliards de baisse de cotisations qu'on va mettre un peu sur la TVA, un peu sur la CSG.
Bah, ça s'appelle une dévaluation fiscale.
Bah, oui.
Hein, le problème, c'est que, elle peut être mangée. Si vous baissez les cotisations sociales et que vous augmentez la CSG, normalement la TVA, bah, normalement c'est neutre sur les prix. Ça peut être mangé par le fait que les entreprises répercuteraient pas en baisse de prix la baisse des cotisations sociales. Et donc vous auriez un effet inflationniste de la
mesure. Ah oui, moi, effet inflationniste et puis effet perte de revenus avec la CSG, mais au moins compétitivité.
C'est une petite dévaluation. Simplement, il faut pas attendre des miracles d'une dévaluation de 2%, quoi. Je veux dire, donc.
Donc TVA sociale, CSG sociale, c'est un fantasme.
Bah, il faudrait faire ça de façon très grosse. D'abord, ça serait très très non coopératif vis-à-vis des autres Européens.
Enfin, bon, c'est-à-dire
Les Allemands l'ont fait, de toute façon,
les autres l'ont fait.
Donc, c'est pas coopératif. Vous mangez des parts de marché essentiellement vis-à-vis. Enfin, vous gagnez des parts de marché essentiellement vis-à-vis des autres Européens, quoi. C'est-à-dire des gens qui sont dans la même monnaie que vous. Et puis, et à nouveau, vous n'oserez jamais faire ça sur une taille suffisante pour qu'un vrai effet macroéconomique.
Bah, 60 milliards, c'est quand même pas.
Bah, c'est une dévaluation de 2%.
2% du PIB, mais sur le coût du travail, c'est plus important que ça. Donc,
l'effet sur le coût du travail peut être important.
Mais effectivement, bon, sur la TVA, ça peut avoir un effet inflationniste. L'idée, c'est bien de gagner en compétitivité, c'est bien de baisser le coût du travail de manière un peu plus large pour les entreprises. Après, il ne faut pas voir ça comme une manière de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État.
C'est plutôt l'idée d'augmenter le taux d'emploi qui me fait dire que peut-être qu'il y a une piste à explorer dans cette direction-là. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de ces sujets. Peut-être qu'il faudra en passer par là. Bruno Le Maire, a priori, je pense qu'il est bien placé pour savoir de quoi il parle.
Ouais, mais on sort d'une réforme des retraites.
Oui, bah on sort
avec un allongement de la durée de travail. Donc,
mais il y a un moment, il faudra qu'il y ait des perdants. On a un peu de mal à l'assumer quand on commente l'actualité, mais il faudra qu'il y ait des perdants, il faudra qu'il y ait des gens qui payent. Et là, la CSG, vous allez taper les retraités. Est-ce que taper les retraités, c'est bon ou mauvais pour le taux d'emploi? Parce qu'en fait, c'est ce qu'il dit dans la page 68, Bruno Le Maire. Il dit clairement qu'il y a un moment, il faudra répartir différemment la facture.
Je pense que le sujet d'ensemble, c'est quand même est-ce que le financement de la protection sociale doit peser exclusivement sur les actifs. Ben, c'est pas une idée de taper sur les retraités, c'est de dire faisons-le de manière plus large.
Donc ça a du sens quand même.
Il y a des choses comme les cotisations santé, famille, etc. qui pèsent sur les actifs, qui bénéficient à tout le monde. Donc la question en tout cas se pose. De se dire, faut-il un modèle un peu différent de financement de notre protection sociale
qui pèse moins
sur le coût du travail.
On a commencé d'ailleurs à basculer certaines cotisations vers l'impôt. Bah, ce serait pas un achèvement, mais en tout cas une étape supplémentaire. Bon, vous n'avez pas l'air convaincu, Patrick, hein, par l'histoire de TVA sociale.
Depuis 40 ans, je défends la TVA sociale, mais enfin, il faut. Le problème, c'est que c'est très petit par rapport à ce qu'on peut attendre. Enfin, je veux dire, si vous baissez le coût du travail même de 3%, vous aurez Vous aurez, alors sachant qu'une partie va être mangée par une hausse des marges des entreprises, hein, vous aurez quel effet net sur l'emploi ? C'est...
Je suis désespéré. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution.
Non, mais faut moins dépenser. Il faut que l'État.
Ben oui, mais pas bon pour dépenser.
Il faut que l'État s'y mette enfin. Il faut arrêter la dépense publique. Elle continue d'augmenter. J'ai entendu là hier le président de la commission des finances qui disait que finalement il y avait eu de telles baisses d'impôts que ça explique le déficit. Mais enfin, les impôts ils n'ont jamais été aussi élevés. Il n'y a pas eu de baisse d'impôts. Il n'y avait aucun journaliste pour lui dire.
Il y a eu des baisses de taux,
mais il n'y a pas eu des baisses d'impôts. On a le record des prélèvements obligatoires une fois encore. Notre propre record et le record de l'OCDE.
Non, mais il y a eu des baisses d'impôts, même si le niveau de prélèvement obligatoire par rapport au PIB a pu se maintenir, il y a bien eu des baisses d'impôts.
Oui, mais en tout, alors il y a eu des.
Si on a moins de taux d'IS et plus de bénéfices, c'est plutôt bon.
Oui. Voilà, c'est ce qu'on veut. Peu importe le taux. Le taux, il a une valeur symbolique. Ce qui compte, c'est ce qui rentre dans les caisses.
Oui, mais je pense que pour les entreprises, le taux compte.
La flat tax, ça a été une bonne mesure. Il y a eu plus d'argent qui sont rentrés dans les caisses. Pourquoi ?
Il y a une chose de bien qui a été
parce que les gens se sont mis à distribuer du dividende au lieu de capitaliser leurs revenus. Bon. Et donc, évidemment, là, c'est exactement ce qu'il faut faire. Un taux plus acceptable et une assiette plus large.
Bon, 18 minutes. On n'a pas apporté beaucoup d'éléments de réponse, je trouve, sur tous ces trucs-là, parce qu'en fait, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ben, c'est très compliqué parce que on a toujours parlé des réformes d'État, on les a jamais faites, et on sait que dès qu'on touche un euro quelque part, il y a un perdant derrière, et on veut pas faire de perdant. On a du mal à l'assumer. Donc, est-ce que vous êtes pour le libre-échange, Guillaume Poitrinal? Parce que là, le Sénat, il a voté.
La réponse, elle est quand même très claire. Hein. 59% de dépenses des administrations publiques en France, la moyenne de la zone euro, elle est à 50. Donc, c'est pas compliqué, il y a 9%.
Il y a 9% de PIB
à aller chercher.
À nouveau, cet écart est largement dû au fait qu'on a 10 points ou 12 points de taux d'emploi en moins que les autres.
Il nous manque du PIB, on est d'accord, c'est un ratio.
C'est plutôt un manque de PIB et qu'un excès de dépenses publiques par rapport aux autres.
Enfin, retenez en tout cas que nous ne sommes pas la Grèce, que nous ne sommes pas en banqueroute et qu'il ne faut pas réduire les dépenses et pas réduire le déficit.
Donc la question, c'était quoi ?
J'ai résumé la pensée de Patrick Artus. La question, c'est si vous étiez favorable au libre-échange. C'est pareil, là, vous prenez toutes les chaînes de télé depuis deux jours, vous entendez que des gens qui vous disent du mal de la concurrence, que des gens qui vous disent du mal du libre-échange, que des gens qui considèrent qu'il faut tout fermer et surtout ne pas aller dans ce type de direction. Donc le Sénat, comme un seul homme, dans une posture purement politique, parce que de toute façon, les LR, ils font exactement. Enfin, tous les votes des LR vont à peu près à l'encontre de ce qu'ils pensent, depuis quelque temps, notamment depuis la réforme des retraites. Ils sont assez extraordinaires, les LR, quand même, hein, au Parlement. C'est bien la concurrence et le libre-échange ? Vous avez été à la tête d'une multinationale.
D'accord, mais non, c'est bien, mais pas. Moi, ce que j'entends dans ce truc-là, c'est quoi ? C'est le ras-le-bol de producteurs français. Je pourrais vous parler de foresterie, je pourrais vous parler d'autres trucs qui croulent sous les normes. La production normative est un cheval emballé, parce que maintenant on vous rajoute de l'environnement, vous rajoutez ceci, etc.
Et des concurrents n'ont pas les mêmes normes.
Et puis à un moment donné, ils arrivent dans l'hypermarché ou Leclerc. Et puis ils trouvent des produits, en fait, qui sont ceux qu'ils auraient pu produire, qui peuvent plus produire parce qu'on leur a interdit tel produit, parce qu'on leur a demandé des déclarations de ceci, de cela, de machin truc, des contrôles a priori.
Ils ont arrêté.
Et le truc, il a fait 3000 km, il a une empreinte carbone dégueulasse, et il est vendu là.
Ben oui.
Et moi, je comprends ce ras-le-bol, excusez-moi, je comprends ce ras-le-bol, je veux une compétition honnête.
Donc quand il y a un
accord, il faut vérifier que si on a interdit tel produit chimique parce qu'on estime qu'il est dangereux pour la planète, parce qu'on estime qu'il est trop polluant, parce qu'on estime qu'il est source d'écocide, il n'y a aucune raison d'autoriser sa vente en France. Je suis désolé.
Bon. Mais c'est le cas dans le CETA. Justement. Enfin, c'est aussi ce qui est un peu.
Dorothée Rouzet.
Je suis d'accord avec le fait que, oui, la concurrence, elle est bien faite. Alors, c'est vrai que c'est toujours très difficile, de toute façon, de, entre guillemets, vendre la concurrence, dans le débat public, parce que c'est un problème classique de. Ça fait des gagnants et des perdants, le libre-échange. Les gagnants, c'est beaucoup les consommateurs, c'est très diffus, chacun d'entre nous gagne un peu. Et les perdants, c'est très concentré, et forcément, on en parle beaucoup. Donc, c'est toujours assez difficile. Maintenant,
les gagnants, c'est très diffus, et les perdants, c'est très concentré.
Il y a aussi des gagnants qui sont très visibles et qui sont dans la filière agroalimentaire sur le CETA. Donc, on a effectivement cette question de. Il faut que la concurrence soit juste, il faut que les normes sanitaires, environnementales s'appliquent à tout le monde, s'appliquent aux importations comme elles s'appliquent en France. Il se trouve que, du coup, il n'y a pas mal de fantasmes sur le CETA. Maintenant, les produits qui sont interdits en France, ils ne peuvent pas être importés du Canada. C'est-à-dire que depuis que le CETA, la partie commerciale, entre en vigueur, non, le bœuf aux hormones ne peut pas rentrer dans l'Union européenne. Le bœuf aux hormones, alors il y en a effectivement, la filière du bœuf au Canada traite son bœuf aux hormones. C'est d'ailleurs bien pour ça que, en fait, les quotas d'importation de bœuf, ils sont même pas remplis. Parce qu'ils sont pas organisés pour répondre aux normes sanitaires européennes. Maintenant, il n'y a pas un bœuf aux hormones qui est rentré en Union européenne. Parce que nos normes sanitaires, elles s'appliquent à tout ce qui est vendu dans l'Union européenne, si ça vient du Canada ou comme si ça vient d'ailleurs. Donc, il y a un peu ce fantasme autour des clauses miroirs qui, de fait, en fait, sont dans nos standards sanitaires et environnementaux.
C'est pas ce que dit la FNSE, enfin, l'autre jour.
Mais non, mais Je
sais pas. Après, je
vais peut-être me faire des ennemis, mais.
Sur les phytos, vous pensez que c'est sur les phytosanitaires?
Et par ailleurs, en fait, quand on voit, je dirais, depuis que cet accord existe, qu'est-ce qui s'est passé pour les échanges entre la France et le Canada en agriculture ou agroalimentaire, nos exportations, elles ont augmenté d'un tiers. L'excédent de la filière vers le Canada, il a triplé. Donc, il est autour de 600 millions. Ceux qui ont particulièrement bénéficié, c'est plutôt le vin, le fromage. Le fromage, avant, ils avaient plus de 200% de droits de douane pour exporter vers le Canada.
Les fromages sont gagnants.
En fait, les importations de bœuf, c'est microscopique. C'est-à-dire, c'est quoi? Déjà, le quota, c'est moins de 1% de la production de l'Union européenne, le quota d'importer. Donc, on ne va pas être inondé de bœuf canadien. Et de fait, comme ils ne se sont pas vraiment organisés pour répondre à nos normes sanitaires, même ce quota, il n'est pas rempli. Donc, il y a pas mal de fantasmes, effectivement. Je pense qu'il y a aussi une collision entre le Mercosur, qui a moins de bonnes propriétés que le CETA sur l'aspect des normes, de l'exigence environnementale, etc. Donc, c'est un peu le débat sur ces deux accords est entré en collision, mais on ne parle pas du même objet.
Non, mais effectivement, il y a en plus une confusion, effectivement, avec le Mercosur qui n'a pas été adopté après 20 ans de débat, et en plus ce sont des points très précis du texte qui ont été rejetés par le Sénat, alors que, comme vous le rappelez, la partie commerciale du CETA fonctionne depuis 2017. Donc on a quand même du recul. On ajoute quelque chose, Patrick, sur le libre-échange?
Non, je suis pas content.
La Banque de France. Alors, je vous fais réagir à cette note de la Banque de France. C'est dans les Échos, page 3, ce matin. Ça n'a pas été publié, mais ça va l'être. Et c'est la fameuse histoire des pertes de gains de productivité. La Banque de France s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui allait se passer. Est-ce qu'on va continuer à avoir des pertes de gains de productivité qui sont quand même le moteur absolu de l'économie et des salaires? Et donc la Banque de France considère que sur la moitié, un peu plus de la moitié de la productivité qui a été perdue, il y a probablement deux tiers de facteurs qui sont durables. L'apprentissage, le fait qu'on manque de main-d'œuvre, alors on a fini par se tourner vers de la main-d'œuvre qui quelquefois était moins qualifiée. Et puis la Banque de France évoque aussi des effets peut-être permanents à la suite du confinement. Ils sont pas cités, j'imagine que c'est le télétravail. Et donc sur cette grosse moitié de perte de productivité, un tiers est temporaire, dit la Banque de France, parce que les difficultés de recrutement ont poussé les entreprises à garder leurs effectifs jusqu'à, pour certaines d'entre elles, se retrouver en sureffectif. Et puis on jouait aussi, comme élément temporaire, la hausse des coûts des matières premières. Et l'étude termine en disant que oui, il y a une partie un peu inexpliquée. Ah. Mais cette partie un peu inexpliquée, forcément, elle aura aussi, par définition, d'après Olivier Garnier, le chef économiste de la Banque de France, elle aura des causes conjoncturelles, donc des causes temporaires. Résultat et bilan, Patrick Artus, car on a souvent parlé de ce sujet, la note nous dit qu'entre 2024 et 2026, on va retrouver des gains de productivité qui dépasseront ce que nous connaissions avant Covid, et qu'en 3 ans, un tiers de la productivité que la France a perdue va être rattrapée. C'est donc une étude qui se veut rassurante.
Écoutez,
j'ai fini mon blabla.
Ce serait une très bonne nouvelle, puisque d'abord, plus de productivité, ça veut dire plus de croissance, ça veut dire moins d'inflation, ça veut dire une Banque Centrale Européenne plus décontractée. Je suis quand même assez inquiet. Enfin, moi, j'ai fait beaucoup de travaux là-dessus, et je trouve que pratiquement toutes les explications de la productivité, de la perte de productivité de la France ou des autres pays européens...
Oui, parce que c'est pas que français.
Démarre d'abord bien avant le Covid.
2019.
Alors en France, ça démarre en 2019. Dans les réseaux de pays de la zone euro, ça démarre en 2017, le recul de la productivité. Et puis, sont dus à des causes structurelles, sont dus à l'insuffisance de recherche-développement, les attitudes vis-à-vis du travail. C'est très contemporain, dans le cas français, par exemple, de la hausse de l'absentéisme. d'absentéisme. Il y a quand même 2 points d'absentéisme en plus entre 2017 et aujourd'hui.
Considérer que l'absentéisme peut faire partie des causes temporaires, par exemple.
Parce que l'absentéisme
en hausse va devenir
L'absentéisme continue à augmenter.
Oui, donc, ça c'est vrai. Voilà.
Ça a aussi rapport avec le vieillissement de la population. Et quand on compare les pays de l'OCDE, il y a une corrélation extrêmement forte entre l'âge moyen de la population active et les gains de productivité. Il y a un rapport avec le niveau des dépenses de recherche-développement. Enfin, je pense que la plupart des causes sont structurelles et pas cycliques. Et parmi les causes cycliques, je ne crois pas du tout à la cause qui est mise en avant par la Banque de France, qui est la poussée du taux d'emploi a fait monter particulièrement le taux d'emploi des peu qualifiés et donc qu'il y a une baisse du degré de qualification moyen de l'emploi. Le taux d'emploi des peu qualifiés n'a pas monté plus que le taux d'emploi des personnes moyennement qualifiées ou très qualifiées, et donc il y a pas de déformation de la structure par qualification de l'emploi. Donc je pense qu'il reste pas grand chose des causes cycliques, et je pense que malheureusement on aura un problème de productivité durable et que la seule, et alors ensuite si vous comparez les États-Unis et l'Europe, aux États-Unis il y a eu aussi des difficultés de recrutement extrêmement sévères. Et aux États-Unis, il n'y a pas eu du tout de ralentissement de la productivité, ni de comportement de précaution des entreprises qui garderaient des salariés avec la crainte de ne pas pouvoir réembaucher. Pour moi, je pense que c'est beaucoup trop optimiste et que ça sous-estime la part de responsabilité des phénomènes structurels.
Dorothée Rouzet, vous partagez un peu l'enthousiasme de la Banque de France ?
Oui, moi je suis plus d'accord avec la Banque de France. Je pense que ces deux catégories de facteurs, et en fait ce qu'on retient de l'analyse de la Banque de France, c'est d'une part sur les facteurs durables, il y a une partie qui est due à la fois à l'apprentissage et moi je dirais oui à l'intégration dans le marché du travail de gens qui sont peu productifs et peu qualifiés. Il y a des liens, mais c'est pas complètement la même chose. C'est-à-dire que par exemple les jeunes, même quand ils sont relativement qualifiés, quand ils entrent sur le marché du travail, ils sont pas encore à leur pic de productivité. Or le taux de chômage des jeunes a quand même beaucoup baissé. Les apprentis, oui, forcément, ils sont pas très productifs, c'est normal, ils sont en train d'apprendre. Mais ça leur permet aussi d'apprendre plus vite et de devenir plus productifs plus tard. Donc en fait, ces pertes qui sont certes durables, de dire on a quelque part un choc en niveau sur la productivité, parce que des gens qui sont relativement peu productifs, avant ils travaillaient pas, maintenant ils travaillent. Certes, c'est pas bon pour la productivité, mais enfin pour le PIB et pour la production totale, c'est plutôt une bonne chose. Il vaut mieux qu'ils travaillent plutôt que de pas travailler. Donc en un sens, il y a cette partie durable. Dans la mesure où c'est l'explication, c'est pas si inquiétant que ça. Après, il y a la question des pertes temporaires, et là, l'explication principale qu'avance la Banque de France, c'est qu'on appelle la rétention de manœuvre. C'est en gros des secteurs qui ont fait face à des crises assez importantes. Ça a été l'énergie.
Oui, il y a 4 secteurs cités.
EDF, l'énergie n'est pas dans l'étude de la Banque de France, mais ça peut en faire partie.
Hôtellerie, restauration.
Il y a hôtellerie, restauration, évidemment, avec le Covid, mais ça s'est pas mal revenu aussi. Il y a tout ce qui est aéronautique, qui a gardé ses ingénieurs, mais avec des difficultés d'approvisionnement importantes, et la construction. Et je dirais là, la question, c'est plus comment va se résoudre cette perte de productivité. D'abord, à quel horizon ? C'est vrai que la Banque de France dit d'ici à 2026, ça peut aussi être plus lent. Et surtout, il y a des secteurs où ça va probablement se résoudre par plus de production en effectif constant. C'est le cas de l'aéronautique, par exemple. Airbus a des carnets de commandes pleins pour des années, donc il n'y a pas de raison que maintenant, ils décident de se séparer des gens alors qu'ils peuvent recommencer à produire à leur cadence habituelle. D'autres où ça peut être plus compliqué, ça peut se résoudre aussi par des destructions d'emplois. Mais là, il faut aussi regarder, par exemple, hôtellerie-restauration, c'est un secteur où de toute façon, il y a beaucoup de rotation et il y a des pénuries de recrutement. Donc les personnes qui vont peut-être perdre leur emploi parce qu'un restaurant fait faillite n'auront sans doute pas beaucoup de mal à trouver un emploi dans un autre restaurant. Alors que dans la construction, ça peut être plus compliqué. Peut-être dernier point, ce que compare la Banque de France, c'est la perte de productivité par rapport à la tendance. Et je dirais, quand on compare Europe et États-Unis, mon sujet, moi, c'est pas tellement pourquoi on a perdu un peu plus par rapport à la tendance. C'est pourquoi la tendance de la zone euro de productivité, elle est depuis 20 ans systématiquement beaucoup plus faible que les États-Unis. En gros, on décroche pas particulièrement des États-Unis parce que depuis 2 ans, on a perdu plus. Ça fait 20 ans qu'on a moins de gains de productivité que les États-Unis parce qu'ils sont plus innovants, parce qu'ils ont pris à plein les gains de productivité du numérique et pas nous. Enfin, donc là, on a des sujets beaucoup plus structurels. Mais les pertes des trois dernières années, je dirais que l'étude de la Banque de France invite à relativiser la gravité.
Bon, bah écoutez, merci pour...
Nous reviendrons en 2025.
Oui, on reviendra en 2025.
Très long,
on
va exposer.
Non, mais c'est un sujet hyper important.
C'est une maison, franchement, c'est une très bonne maison ici. Ah, c'est une maison. Les débats et d'un très bon niveau.
C'est une maison sérieuse, monsieur. Est-ce que vous payez dans les temps? Vous payez vos factures dans les temps
Mais non, mais... C'est toujours une question d'offre et de la demande. Non, c'est pas la peine de réguler tout. Il y a des fournisseurs.
Non, je dis pourquoi je parle de ça quand même, parce que là, les retards. J'ai mis dans mes sujets les retards de paiement. Alors, on en parle en ce moment. Tout le monde cherche la solution depuis des années. Je fais ce métier depuis 30 ans. Ça fait 30 ans que c'est 13 jours de retard. 12, 13, 14. Peu importe les lois, peu importe les menaces de Naim et Shem, rien n'y fait. C'est le truc insoluble.
Ouais, enfin, moi, je me demande si, de toute façon, c'est encore un objet de régulation, on va obliger, mettre le truc, etc. À la fin, ça marche pas, hein. C'est comme la loi Egalim et tous ces trucs-là. On a beau essayer de rentrer dans les rapports entre le fournisseur et le client, à la fin, c'est quand même une question de rapport. Donc, je vous le dis très directement, moi, ma maison, évidemment, paye dans les temps, mais quand j'ai un fournisseur dont j'ai vraiment envie, qui est absolument indispensable et qui me dit il faut me payer en avance monsieur Poitrinal, sinon je viendrai pas parce que j'ai d'autres clients, ben excusez-moi, je le paye en avance, c'est pas que je le paye en retard, je le paye en avance.
Oui, mais
pourquoi?
Oui, mais parce que le rapport de force existe,
c'est tout. Et de temps en temps je négocie les échéanciers de paiement parce que finalement je préfère, et puis j'obtiens un prix moins cher. Donc tout ça, ce sont plein de facteurs qui sont les uns avec les autres. On adore dans notre pays opposer la grande multinationale et le tout petit patron de PME start-upper qui lui s'ouvre parce que la grande multinationale est méchante, etc. Mais tout ça, c'est de l'imagerie d'Épinal, les amis. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie.
Dans la vraie vie,
il y a un rapport entre les fournisseurs et les clients. Moi, je suis fournisseur de certains de mes clients. J'ai des clients locataires qui me disent le premier loyer, tu le toucheras après 2 ans de franchise, parce que j'ai pas l'intention de payer un seul loyer pendant 2 ans. Et puis je suis très content de les avoir. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de remplir mes immeubles. Donc c'est ça la réelle petite. Mais il faut qu'on parle de lithium.
Oui, on va en parler.
Il reste 3 minutes.
Oui, il reste 3 minutes 10. C'est bien, vous êtes du super pro maintenant, Guillaume. Oui, il y a un chrono là.
Le lithium.
Il y a un chrono. Non mais j'arrête là sur les délais de paiement.
On ne sera jamais d'accord.
Une faillite sur 4 en France, c'est les délais de paiement. Oui. Les retards.
Ah bah ouais. Mais... Ça comme ça. Aussi. Alors. De toute façon, la faillite, c'est toujours de la trésor. On meurt toujours de la trésor.
Oui,
donc il y a toujours un délai de paiement. Il y a toujours une facture qui aurait pu arriver à l'heure et qui nous aurait sauvés. La réalité, c'est que la faillite, c'est quand il y a une insuffisance d'actifs.
Dans l'Allier. En Auvergne.
Très intéressant.
On a ouvert le débat hier. Nicolas Bouzou défendait l'idée d'aller chercher du lithium dans l'Allier.
Nicolas Bouzou a raison. Pourquoi? Parce que là, on va avoir le débat très amusant dont je parlais dans mon bouquin pour en finir avec l'apocalypse, entre les écolos décroissantistes qui ne veulent qu'on trouve absolument aucune solution, et puis les écolos progressistes qui disent on a besoin du lithium pour aller faire des batteries, on en a en France, et ben donc on va se permettre de mobiliser 4 ou 5 hectares, en effet, pour aller améliorer cette mine qui existe déjà. Et j'ai appris ce matin de la bouche de Patrick Artus.
Et donc je
pense qu'ici, là, on va toucher le débat très intéressant. La planète est malade. On a besoin de technologies nouvelles pour arrêter le réchauffement climatique. Il y a ceux qui ne veulent rien faire, qui disent on va tomber dans un monde de panique, de décroissance, on va tous retourner dans la caverne, on va tous vivre en autarcie, et ça va être en plus formidable parce qu'en plus on n'aura plus besoin de travailler, donc il n'y aura plus de problème de productivité, puisque dans ce monde qui est décrit par les décroissantistes et que je décris dans mon bouquin, c'est un monde formidable en fait, de bonheur, d'égalité sociale, il n'y a plus d'injustice, il n'y a plus d'inégalité. C'est ça le monde qui nous attend selon cette théorie des écolos décroissantistes anti-progrès. Et puis il y a des écolos que moi j'essaye de défendre, c'est la boîte que j'ai essayé de faire aussi. Allons trouver les solutions, investissons, faisons de la recherche pour vivre dans un monde sans carbone. C'est possible de vivre dans un monde sans carbone. On n'est pas obligé de balancer autant de charbon dans l'atmosphère qu'on le fait aujourd'hui. C'est 40% des émissions. Même les Allemands sont assez riches pour fermer leurs mines de charbon et leur usine à charbon. Il faut qu'ils le fassent. Et donc il faut qu'on amène la consommation vers une consommation bas carbone.
Allons chercher du lithium dans le Massif Central. Bon. C'est Imerys qui porte le projet. Le débat ne fait que commencer, mais il est à peu près évident que ça va chauffer autour de ce sujet, comme toujours, quand il y a un sujet qui touche de près ou de loin aux questions d'environnement. L'Allier, là, on arrête là, hein.
De toute façon,
on a fini, toi, non, mais Patrick Artus.
Il n'y a pas de raison que nous profitions du lithium extrait dans de mauvaises conditions dans de pays émergents et que nous ne fassions pas l'effort d'extraire du lithium en France dans de bonnes conditions, avec une entreprise qui respectera des contraintes environnementales, qui utilisera moins d'eau, etc.
Donc, ils ont un bon argumentaire, Imerys, d'ailleurs. Pour connaître que... On a fini, merci pour ces débats. J'ai adoré là la dette consolidée franco-allemande. Ça c'est la meilleure de la semaine quand même.
La fusion obligée.
Ouais, je suis pas sûr que les Allemands, comme disait Dorothée, seraient super emballés.
Mais bon, on leur demande pas leur avis.
Merging.
Dorothée Rouzet, merci d'avoir été là. Patrick Artus, Guillaume Poitrinal, on se donne rendez-vous lundi à 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.